au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Canal Académie. Restez avec nous pour cette émission d'Au fil des pages. Au fil des pages reçoit aujourd'hui l'académicien Michel Zinc. Michel Zinc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un habitué de ce micro. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation.
Toujours un plaisir.
Et vous êtes venu nous parler d'un ouvrage que je vais qualifier de collectif intitulé « Moyen-Âge et Renaissance au Collège de France ». C'est un ouvrage paru chez Fayard qui n'est autre qu'une compilation de textes. Nous allons y revenir. Il s'agit des leçons inaugurales du Collège de France, des discours consacrés à l'étude du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est un travail que vous avez réalisé, que vous avez dirigé en collaboration avec votre confrère Pierre Toubert. Alors, ma foi, ma première question sera assez simple, Michel Zinc. Pourquoi avoir entrepris ce travail de publication dont les premiers textes présentés remontent à la moitié du 19e siècle?
Oui, et même avant, et puisque même si nous n'avons pas la leçon inaugurale de Michelet et si sa chaire n'était pas spécifiquement une chaire de Moyen-Âge, nous avons un compte-rendu de sa leçon inaugurale qui montre que une grande partie de cette leçon a été consacrée au Moyen-Âge. Alors pourquoi publier ce livre ? Parce que le Collège de France est une institution représentative de l'évolution des disciplines, des sciences, de la pensée et des mouvements intellectuels. Pourquoi plus représentative qu'une autre ? Parce que le Collège de France n'a pas l'obligation, comme une université, mettons, de former des étudiants. Il n'y a pas de cursus précis. Vous savez que les cours du Collège de France sont d'accès libre. On y va comme au cinéma, sauf que c'est gratuit. Et les professeurs du Collège de France sont choisis pour ce qu'ils sont, avant d'être choisis pour la discipline qu'ils enseignent. Nous nous demandons, c'est une cooptation, qui serait digne de venir au Collège de France, et ensuite nous définissons la chaire avec l'accord de la personne pressentie en fonction de sa discipline. De sorte que le Collège de France est toujours à l'affût des disciplines nouvelles, des évolutions, des nouveautés, puisqu'il enseigne la recherche en train de se faire, et de sorte aussi qu'il n'y a pas de continuité des chaires. Dans une université, si un professeur d'histoire du Moyen-Âge, mettons, prend sa retraite, il faut le remplacer par un professeur d'histoire du Moyen-Âge. Tandis qu'au Collège de France, si un professeur d'histoire du Moyen-Âge prend sa retraite, il peut être remplacé par un astrophysicien, ou vice-versa, ou un égyptologue, par un chimiste, etc. Et de sorte que, en suivant ces diverses chaires, on suit donc l'évolution du monde, de la pensée du monde scientifique. Et aussi, en lisant ces leçons inaugurales, qui sont donc une leçon inaugurale du Collège de France, c'est un événement très, très public et assez solennel, on voit l'idée que le nouveau professeur se fait de sa discipline, la façon, la direction dans laquelle il orientera ses recherches et son enseignement, la façon dont il se situe au regard d'une tradition, parce que tout de même, quelquefois, il succède à quelqu'un qui faisait à peu près la même chose, et souvent, même si il y a une différence, la leçon inaugurale est consacrée au moins en partie à parler d'un prédécesseur illustre. De sorte que c'est un reflet très original, d'une certaine façon, de la vie intellectuelle en France.
Alors comment expliquer le fait que la littérature médiévale apparaît si tardivement au Collège de France, donc qui naît sous François Ier ? Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour voir cette chaire de littérature médiévale.
Oui, 1852. Mais faire remarquer que cette date tardive n'est que relativement tardive, parce que les premières chaires du Collège de France au XVIe siècle étaient des chaires d'hébreu, de grec, une chaire de mathématiques. Et puis le latin est venu un petit peu après. Et ensuite, il y a eu des chaires, dans les disciplines scientifiques, il y a eu des chaires d'orientalisme, parce que chaque fois, on suivait justement les centres d'intérêt nouveaux et les progrès de la connaissance. Il y a eu d'abord, enfin, je suis désolé de cet excursus, mais d'un mot, de l'hébreu et du grec, parce qu'au XVIe siècle, le grand enjeu à la fois intellectuel, religieux, politique, c'est autour de la réforme la lecture directe de l'écriture sainte. Donc il faut savoir l'hébreu. Et c'est aussi l'humanisme et le retour à la pureté et à l'exactitude de la connaissance du grec et du latin. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, il y a une ouverture sur le reste du monde, il y a des accords même, ou des ouvertures politiques de la France du côté de la Sublime Porte ou du côté du monde oriental qui font qu'on s'est intéressé à enseigner ces langues orientales, l'arabe, le turc, les langues de l'Extrême-Orient. Au XIXe siècle, la naissance des langues et des littératures européennes intéresse pour des raisons qui sont aussi en partie idéologiques. Et à ce moment-là, on crée cette chaire. Mais on remarque que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire du Moyen-Âge est venue beaucoup plus tard. Il y a eu très tôt des titulaires de chaires d'histoire au Collège de France, la chaire d'histoire s'appelait Histoire et morale pendant longtemps, qui parlait du Moyen-Âge. J'ai donné l'exemple de Michelet, qui a peut-être été le premier. Mais la première chaire qui était intitulé Histoire du Moyen-Âge, enfin de façon plus compliquée, mais qui a eu le mot Moyen-Âge figurant dans son intitulé, a été celle de Georges Duby en 1970. Puis il y a eu celle de Pierre Toubert, qui a dirigé avec moi cet ouvrage, et pour le moment il n'y en a pas. L'histoire du Moyen-Âge a eu, au moins en tant que telle, une présence plus réduite que la philologie et la littérature.
Mais comment expliquer son apparition ? Est-ce le romantisme du XIXe siècle qui a suscité cette création ?
C'est l'aspect idéologique, si je puis dire, du romantisme. C'est-à-dire que la pensée romantique, et en particulier la pensée de Herder, mais aussi celle qui anime Macpherson, etc., tous les Anglais à la même époque, Percy, etc. Cette idée, c'est que chaque peuple a une identité propre et un génie propre, et que ce génie particulier de chaque peuple se manifeste d'abord dans ses productions artistiques, et en particulier poétiques, qui, dans ses premières productions, qui, dans la représentation du romantisme, qui est inexacte sur ce point, sont des productions collectives, anonymes parce que collectives, et qui expriment donc le génie de tout un peuple. Et ce génie particulier à chaque peuple, on le trouve donc aux racines de sa littérature, donc pour les peuples de l'Europe au Moyen-Âge, et aussi dans les productions de la littérature qui ont été préservées à la fois de la création individuelle et des influences étrangères ou savantes, c'est-à-dire dans la littérature populaire. D'où le lien pendant très longtemps entre les études, ce qu'on appelait à l'époque les études de folklore, et les études médiévales. Et il y avait là un enjeu politique, parce que le XIXe siècle est l'époque des nationalités, de l'unité allemande, de l'unité italienne, et chacun des peuples, à ce moment-là, se cherche un passé, une gloire littéraire ancienne, ou ancien plutôt. Et en même temps, cela se fait parfois contre la culture classique, et la culture classique à l'époque moderne est incarnée dans la France. Le classicisme français était un modèle pour l'Europe. La France a apporté à l'Europe les idées, enfin les Lumières, la Révolution française, etc. Mais en même temps, elle a dominé l'Europe avec l'Empire et il y a une résistance et la recherche de cultures autochtones. De sorte que lorsque le premier titulaire de cette chaire réclame, en fait, normalement, quand on est professeur au Collège de France, il ne faut jamais avoir même dit qu'on pensait au Collège de France ou qu'on avait envie d'avoir au Collège de France. Si on le dit une fois, c'est fini. Mais le premier titulaire de cette chaire, Paul Imparis, a écrit au président de la République,
Napoléon,
qui était le futur Napoléon III, au prince président, pour demander la création de sa chaire. Première partie, il serait très bon de créer une chaire. Deuxième partie, si elle était créée, je ne serais pas indigne de l'occuper. Et il donne comme argument que l'Europe entière s'intéresse au début de la littérature et particulièrement au début de la littérature française, qui, et c'est vrai, a donné le ton à l'Europe au Moyen Âge, et seule la France n'a pas de chair dans ce domaine.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit, la démarche est romantique. Or, cette démarche se veut... souhaite étudier un contenu, est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme ?
Oui, un anachronisme et d'abord une contradiction, enfin une contradiction.
Un paradoxe.
Un paradoxe. C'est-à-dire que la philologie scientifique, peut-on dire, se développe d'abord dans le pays même du romantisme, qui est l'Allemagne. La première chaire consacrée aux langues et littératures romanes du Moyen-Âge, au vieux français, au vieil occitan, etc., a été créée à Bonn, pour Friedrich Dietz, qui avait commencé dans la vie comme poète romantique. Et c'est parce qu'il y a eu le romantisme, c'est qu'on s'est intéressé à cette littérature. Cette littérature est déjà connue. Le XVIIIe siècle connaît très bien le Moyen-Âge, en particulier grâce aux travaux des savants de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Mais il connaît très bien le Moyen-Âge parce que le Moyen-Âge est le passé de la France, parce qu'au XVIIIe siècle, les rois qui règnent sur la France sont encore, appartiennent à la troisième race, comme on dit, une dynastie qui remonte au Moyen-Âge, parce que le droit français remonte sans solution de continuité au Moyen-Âge. Mais il n'aime pas la littérature du Moyen-Âge, il la trouve grossière, barbare, sans intérêt. Et le changement romantique, c'est qu'on a aimé cette littérature. Cette simplicité, ce qu'on apprenait à l'époque pour de la naïveté, c'est très propre à la littérature du Moyen-Âge. On les a aimés, et dès avant la fin du XIXe siècle, lorsque l'année où Goethe et Schiller, ce qu'on appelle Balladenjahr en allemand, l'année des ballades, ils écrivent des poèmes qu'ils appellent des ballades, et qui sont des poèmes narratifs avec une entrée en matière in medias res, etc. Le modèle est médiéval. C'est le romancero espagnol, ce sont des poèmes français ou allemands. Mais en même temps, comme il y a à la fois ce modèle romantique et ce modèle philologique venu d'Allemagne, l'enthousiasme romantique aboutit en fait à une étude qui deviendra bientôt une étude positive, un esprit positiviste de la langue et de la littérature. Le premier titulaire de la chaire au Collège de France, Paulin Paris, avait écrit en 1824 à 24 ans, il était du siècle, une apologie ou un éloge de l'école romantique. Et puis ensuite, il est devenu un savant, enfin, relativement sérieux pour l'époque, et son successeur a été son fils, Gaston Paris, qui, lui, est le type du savant positiviste, mais avec encore, de temps en temps, des enthousiasmes, des façons de voir les choses, un goût qui relève encore du romantisme.
Michel Zinck, nous nous retrouvons dans un instant.
1958-2008, la 5e République fête ses 50 ans. À cette occasion, retrouvez sur Canal Académie les académiciens ministres sous cette constitution. Michel Debré, Alain Decaux, Maurice Druon, Max Gallo, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Messmer, pour ne citer que quelques noms. Retrouvez-les sur Canal Académie et téléchargez librement nos émissions consacrées à ces personnages de l'histoire.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Michel Zinck, auteur du livre « Moyen-Âge et Renaissance au Collège de France » paru aux éditions Fayard avec son confrère donc Pierre Toubert. Nous avions laissé nos auditeurs sur l'idée de romantisme et de positivisme. Ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que finalement, les deux écoles ne semblent pas s'opposer. Elles se sont nourries l'une de l'autre.
Exactement. C'est profondément ma conviction. Je ne dis pas que ce serait la conviction de tous mes collègues, mais c'est ma conviction. Et pour ma part, je pense que on ne peut pas se débarrasser complètement du romantisme parce qu'il y avait fondamentalement quelque chose de juste, contrairement à ce qu'on dit souvent, dans l'appréhension que le romantisme avait du Moyen-Âge. Mais il faut dire que nous parlons de ces chaires de langue et de littérature, et il n'y a pas eu qu'elles pour représenter le Moyen-Âge. Et le volume qui nous réunit ce matin regroupe des chaires, des leçons inaugurales, donc de ces chaires de langue et littérature française, mais aussi dans d'autres domaines linguistiques, de littérature latine du Moyen-Âge, etc., mais aussi des chaires d'histoire, des chaires de, alors, de domaines linguistiques étrangers aux langues romanes, de germanistique, etc., des chaires d'histoire de l'art, des chaires d'études byzantines, c'est le Moyen-Âge aussi, et au moins une chaire de philosophie, une seule, mais vraiment d'un professeur, d'un savant, d'un penseur extraordinaire, qui est Étienne Gilson. Enfin, je le dis juste peut-être en parenthèse, mais pour ne pas donner l'impression que je tire la couverture à moi et que je ne rends pas hommage au travail de l'équipe qui a travaillé avec Pierre Toubert.
D'autant que vous écrivez qu'avant Gilson, vous dites que la leçon la plus remarquable est celle de Félix Lecoy.
Alors, non, la plus remarquable, peut-être pas de tout l'ensemble, mais j'ai écrit l'introduction pour la partie langue et littérature. Pierre Toubert l'a écrite pour la partie histoire. Et puis, Roland Recht a parlé d'histoire de l'art, Gilbert Dagronde et des byzantinistes. Puis ensuite, il y a des notices particulières pour chaque leçon et une annotation. Je parlais de l'ensemble des leçons de langue et littérature du Moyen-Âge, donc de Paulin Paris à moi, si on veut. Bon. Et je trouve que la plus remarquable est celle de Lecoy, et peut-être l'ai-je dit par goût du paradoxe, parce que c'est la seule qui était restée inédite, ou pour attirer le chaland, parce qu'elle existait dans les archives du collège dactylographié, elle n'avait jamais été publiée. Mais elle est remarquable, parce que j'avais la plus grande admiration pour Lecoy, qui était mon maître.
Elle est annonciatrice.
Elle est annonciatrice, parce qu'on sent en même temps une sorte de doute. Félix Lecoy est le premier à se dire qu'au fond, la langue et la littérature du Moyen-Âge, ou les langues et la littérature du Moyen-Âge, c'est important, mais enfin, que le monde peut tourner sans, qu'il y a peut-être autre chose dans la vie, ce qui n'effleurait pas ses prédécesseurs, ou généralement, d'une certaine façon, les cuistres pensent que tout, enfin, nous autres, que ce que nous faisons est extrêmement important. Mais la première phrase de la leçon de Lecoy, et pour dire, enfin, je cite de façon inexacte de mémoire, cette chaire, lui, a l'idée d'une continuité de chaire qui a existé de 1852 à lui, donc 1852 à 1974. Puis après, à Lecoy a succédé Pierre Boulez, pour montrer qu'il n'y a pas de continuité des chaires, et on a recréé une chaire de ce genre pour moi 20 ans après, en 94. Bon. Enfin, la première phrase de la leçon Lecoy est pour dire cette chaire est peut-être plus remarquable encore par la qualité des professeurs qui l'ont occupée que par l'importance de la discipline. Comme dit, il commençait à avoir des doutes sur l'importance de cette discipline.
Alors cette discipline, elle existe bel et bien. Vous-même, vous avez prononcé une leçon inaugurale, je voudrais y venir. Mais alors, la première chose qui m'a frappé en la lisant, c'est le besoin d'humilité. Le besoin, le souci, la volonté d'humilité dans la démarche à la fois littéraire et historique.
Dans ma propre leçon. Oui, ça tient aussi à un trait de caractère. Non pas que je me définisse comme humble, je dise comme le franciscain, pour l'humilité, je ne crains personne. Mais j'avais vivement le sentiment, en arrivant au Collège de France, que c'était pour moi un honneur immense, toujours un honneur d'être nommé professeur au Collège de France. Mais enfin, j'espère que je ne fais pas honte au Collège de France, mais enfin que je ne m'imposais peut-être pas tout à fait, que j'étais particulièrement reconnaissant. Il y a des professeurs qui honorent l'institution et il y a des professeurs que l'institution honore. J'avais vivement le sentiment d'appartenir à la deuxième catégorie. Donc le topos d'humilité, qui est fréquent au début d'un texte de ce genre, n'était pas de pure forme. Et puis aussi, ce n'est pas la même chose de prononcer une leçon inaugurale de littérature du Moyen-Âge en 1994, comme je l'ai fait, ou en 1852, ou dans les années 1880, comme Gaston Paris, ou en 1903, comme Bédier, ou 4 comme Bédier. En 1994, le cœur du Collège de France, c'est désormais les disciplines scientifiques. Il y a eu, il faut bien le reconnaître, tout de même un mouvement de bascule de l'importance relative des disciplines aux yeux de tous et même aux yeux des intéressés. Et je me sentais obligé de justifier ce que je faisais alors qu'un de mes prédécesseurs, 100 ans plus tôt ou même 50 ans plus tôt, aurait trouvé que ça allait de soi.
Vous dites que la meilleure raison de poursuivre cet enseignement vieux de 150 ans est que son objet n'existe peut-être pas.
Oui, alors ça, bon, alors vous voyez, d'une part...
Effet de style ou...
Un petit peu, naturellement. Mais en fait, c'est quelque chose d'important. C'est que ma chaire s'appelle Littérature de la France médiévale, au pluriel, pour dire que je fais de la Languedoc, de la Languedoil, un peu de latin, bon. Et or, la notion de littérature telle qu'elle est de la nôtre aujourd'hui, effectivement, est une notion récente, une notion qui précisément ne remonte pas beaucoup plus haut que le 19e siècle. Au Moyen-Âge, literatura, généralement le mot se trouve en latin, c'est l'ensemble des textes, mais
il n'y a pas d'auteur.
Non, il peut y avoir des auteurs, mais ça peut être, de même qu'on dit maintenant, la littérature sur la question, mettons, sur les voitures électriques. On dit la littérature, c'est bon, pour dire tout ce qui s'est écrit là-dessus. Mais au Moyen-Âge, c'est un peu dans ce sens, où le mot littérature désigne la grammaire. Mais qu'il y ait un langage spécifique, qui est plus ou moins lié à la fiction, plus ou moins lié à la poésie, qui définit un type particulier. Je ne dis pas que ça n'existe pas du tout, mais les catégories ne sont pas exactement les mêmes que pour nous. Et ce qui est frappant, pour revenir à l'histoire de cette discipline, c'est qu'on a créé ces chaires au XIXe siècle au Collège de France au moment où cette notion moderne de littérature est apparue. Donc il y avait une nouveauté à appliquer rétrospectivement à une époque du passé cette idée de littérature. Ce qui existait autrement, c'était l'idée, d'ailleurs comme le nom de notre académie, enfin de mon académie, l'idée de « belles lettres ». Mais les belles lettres, ce n'est pas exactement la littérature comme nous l'entendons. Lorsque on le voit, enfin bon, si vous me permettez là encore de parler d'autres champs que de moyens, mais et c'est un exemple que je me répète, je cite souvent, tout le monde le connaît. Dans Proust, lorsque les parents du narrateur invitent Monsieur de Norpois à dîner pour lui présenter le narrateur et puis voir si Monsieur de Norpois l'encourage à se lancer dans la littérature comme il le veut, Monsieur de Norpois lit son petit essai purement littéraire, on prend d'un air dégoûté, et Louis dit « Oui, la littérature, c'est très bien. J'ai un jeune ami qui s'est lancé dans la littérature, il a écrit un essai très remarqué sur l'usage du fusil à répétition dans l'armée bulgare, et il est bien lancé. » Donc, alors, bon, pour Proust, c'est l'abomination de la désolation, mais ce qu'il voit très bien, c'est que Monsieur de Norpois, vieux monsieur et monsieur de la vieille école, quand le narrateur est adolescent, Monsieur de Norpois se fait une idée de la littérature, met sous le mot de littérature quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qui met le narrateur. Et les hommes et les femmes du Moyen-Âge auraient mis sous auraient une idée de la littérature à la Norpois. Donc, en appelant ma chaire littérature de la France médiévale, je suis un petit peu en décalage et je dois sans cesse à la fois justifier mon objet, définir mon objet, prendre la mesure de cet objet en comparant ce qu'il était au Moyen-Âge, ce qu'on en pensait au Moyen-Âge, la façon dont on analysait la littérature et la poésie, ça existait quand même au Moyen-Âge, et ce que nous en pensons maintenant.
Alors vous écrivez, l'étude des littératures médiévales avait en ce temps, donc il s'agit du 19e siècle, un véritable enjeu, comprendre l'esprit des peuples et la nature de la poésie. Qu'en est-il aujourd'hui, Michel Zinck ?
Eh bien, justement, l'enjeu du 19e siècle, c'est celui que je rappelais, oui. Je rappelais tout à l'heure. Et aujourd'hui...
Parce que vous êtes très pessimiste dans votre propos.
Un peu. Je ne le suis pas et je n'ai pas de raison d'être parce qu'on écrit et on lit, encore aujourd'hui, et beaucoup. Et si on lit moins, il y a d'autres modes d'expression. Le cinéma, il y a mille choses. La créativité n'est pas morte. Bon. Mais d'un autre côté, nous avons aujourd'hui, je le pense profondément, une difficulté à justifier ce que nous aimons. Si nous aimons la littérature, il ne va pas de soi de dire pourquoi il faut l'aimer, pourquoi il faut la pratiquer, pourquoi il faut en lire, pourquoi il faut en écrire. Et c'est difficile parce que nous n'avons plus ces raisons idéologiques, parce que nous n'avons plus cette idée qui a régné sur tout l'Occident et sur beaucoup d'autres civilisations, dans l'Extrême-Orient, etc., que l'esprit se forme en se tournant vers ce qui s'était composé, sinon écrit, dans le passé, comme un petit Athénien du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ apprenait tout dans Homère. On lui faisait apprendre des chants d'Homère par cœur, et puis il apprenait l'histoire, la mythologie, donc la religion, la science, tout, la connaissance de la nature. Bon, Nous n'avons plus du tout cette idée. L'idée même de littérature au XIXe siècle s'est définie par la restriction de la littérature sur un précaré, parce que ce qui était science n'était plus littérature, alors qu'autrefois, la philosophie et les sciences s'écrivaient en vers. Bon, ce n'est plus le cas. Donc, le champ de la littérature s'est réduit. Et en même temps, nous cherchons plus une compréhension de nous-mêmes, une clé de nous-mêmes, une interprétation du monde dans la science ou dans la réflexion sur le monde contemporain que dans ce que nous appelons aujourd'hui littérature. Et si le XIXe siècle avait l'idée qu'on pouvait comprendre l'âme humaine à travers le roman ou à travers la poésie, où Zola écrit l'histoire naturelle d'une famille sous le Second Empire, ben maintenant, si on veut écrire l'histoire naturelle ou si on veut se fonder sur la physiologie, on n'écrit plus une série romanesque. Et pour connaître l'âme humaine, nous fions d'abord, je ne sais pas, il y a une époque où c'était la psychanalyse et ça allait bien avec la littérature parce qu'elle se nourrissait de littérature, donc ça allait encore. Mais maintenant, c'est de plus en plus physiologique, donc ça s'éloigne de plus en plus. Et la littérature n'est plus qu'un symptôme pour les scientifiques. Enfin, je suis beaucoup trop pessimiste, et je suis beaucoup trop pessimiste, encore une fois, parce que on n'a pas besoin d'avoir de bonnes raisons de faire quelque chose pour le faire, ou d'avoir des raisons conscientes ou articulées pour le justifier. Si on en a le besoin, et ben c'est très bien. Mais enfin, c'est moins facile de justifier la littérature aujourd'hui qu'autrefois, ça me semble clair. Et dans l'attitude même au Collège de France, où nous sommes vraiment, l'atmosphère est vraiment collégiale, nous connaissons bien, nous voyons beaucoup, nous nous entendons bien, en gros, nous parlons beaucoup de ce que nous faisons, à la différence de ce qui se passait dans les universités, j'étais longtemps, j'étais professeur à la Sorbonne. Au Collège de France, nous parlons de questions intellectuelles. Eh bien, nos collègues scientifiques nous regardent avec amitié et considération. Mais nous voyons bien que plus le temps passe, plus il faut nous justifier à nos yeux. Par exemple...
Mais justement, oui. J'ai reçu à ce micro Étienne Klein, qui est un grand scientifique, et il se pose la question du sens. Est-ce que cette littérature, vous dites à la fin d'ailleurs, la littérature donne à la fois la jouissance et la méditation, au fond, la recherche d'un sens?
Oui, alors il y a cela, c'est que...
En cette période de crise,
oui. Fondamentalement, c'est ce que je crois. C'est que je crois qu'on ne trouve pas forcément le sens en allant en profondeur, ce qui est la démarche scientifique. D'une certaine façon, la littérature est plus un art de la surface. On reste dans les mots, dans la dérive des mots. Mais il y a un autre type de sens qui surgit de cette façon et qui, au fond, aide plus à vivre, ou dans certaines circonstances, aide plus à vivre. Parce que, quoi que les scientifiques nous disent le contraire, bon, je trouve souvent qu'ils sont un peu désespérants dans l'image qu'ils nous renvoient et de nous-mêmes et du monde. Je le dis très mal, mais nous voyons très bien que des gens extrêmement intelligents et extrêmement savants manquent de sensibilité, mettons, dans les rapports humains. Bon. Alors, c'est quelque chose de très superficiel. Ils comprennent tout, ils savent tout, ils savent comment marchent les rapports humains, ils savent comment marche mon cerveau, ils savent que si je suis attiré par une dame, enfin c'est une pure supposition, etc. C'est parce qu'il y a une odeur que je ne perçois pas, etc. Bon, très bien. N'empêche qu'il y a des nuances du langage, des nuances dans le non-dit, quelque chose qui fait toute la subtilité de la rencontre entre les personnes, qu'ils ne saisissent pas. C'est quelque chose d'assurant. Ça, c'est quelque chose que la littérature aide à saisir. On peut dire c'est superficiel parce qu'on ne sait toujours pas d'où vient l'odeur et comment marche le cerveau. C'est superficiel, mais en même temps, c'est l'essentiel. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et on vit de ça. Et si on n'a pas de temps.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Zinc, pour ce que j'appellerais finalement une éloge du beau et de la belle littérature, les belles lettres. Je rappelle votre ouvrage, Moyen-Âge et Renaissance, un ouvrage que vous avez dirigé avec votre confrère Pierre Toubert, Moyen-Âge et Renaissance au Collège de France, un ouvrage paru chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Au fil des pages.